interest in the defense of Europe. He also believes that France might be capable of ensuring this defense by mainly its own means. Now, these are ideas which are very firmly established in his mind, and it will not be possible for anyone to convince him that he is wrong. As for myself, I do believe that he is completely mistaken. I believe that the principle of the single defense or the unique defense of both continents is still a principle to be retained.
Don't you? Of course, it is completely untrue that the United States would leave Europe, because why should we expose Europe to the internal pressures as well as the external pressures, and thereby weaken ourselves? I think he says this in order to give an additional warrant for his going ahead with a very expensive program. The justification for it, he has to say, we can't trust the Americans, or, well, I might trust them now, but we can't in the future. Do you think that if this idea has taken root, either that the United States would not use nuclear weapons to defend Europe for fear of destroying the mainland of America, or second, that the day might come when the United States would leave us defenseless? It may be that at some point we might say that if the time should ever come when the United States would leave Europe, which will not come, that the United States would turn over to Europe for the means of its own defense nuclear power, so that he doesn't have this constant argument. I don't know how serious the argument is, but we certainly agreed to turn over to Europe the means of its own defense if we should withdraw. But of course we're not, unless he drives us out.
Mais je crois, n'est-ce pas, que c'est une politique tout à fait folle et ridicule pour l'Europe de vouloir concevoir sa propre force nucléaire en dehors de la force des États-Unis. Je crois que c'est une complète folie. Je suis convaincu que jamais l'Europe ne parviendra à créer une organisation, une arme nucléaire suffisante pour pouvoir l'employer sans être sûr que les États-Unis la soutiendraient en employant leurs forces. Comme je suis convaincu que la défense de l'Europe et de l'Amérique est indivisible, ça me paraît une folie que d'aller dépenser des centaines de milliards pour créer une force inutile. Mais nous sommes en présence tout de même de cette réalité que ces arguments, et j'en suis convaincu, sont les arguments de bon sens, ne l'arrêtent pas. Il fait sa politique comme si l'Amérique devait partir, comme s'il était indispensable que la France ait sa force de frappe, comme il dit dans un de ses derniers discours, défendre la France si elle était attaquée. On peut d'ailleurs se demander attaquer par qui, dans quelles circonstances, à quelle hypothèse politique cela répond. On ne sait pas très bien comment la France pourrait être attaquée sans que l'Europe tout entière soit attaquée, sans que le monde libre tout entier soit attaqué. De sorte que toutes ces idées militaires me paraissent vraiment fausses, mais créer au sein de l'Alliance une réelle difficulté. Et cette difficulté va se préciser dans cette question de la force multilatérale. Cette question de la force multilatérale est, à mon avis, une idée politique qui était tout à fait juste si ça avait permis de régler et le cas français et le cas allemand. Si on avait pu faire cela, je crois que ça aurait été tout à fait bien. Mais il apparaît maintenant que le cas français ne peut pas être réglé, puisque il persistera dans sa politique individuelle. Et alors, en ce qui concerne l'Allemagne, nous assistons petit à petit à ceci, c'est que le résultat de la politique générale de Gaulle fait de l'Allemagne maintenant le premier pays européen. Dans le cadre de la communauté économique, ce sont les Allemands. jours, au sein du NATO, nous allons devoir poursuivre l'étude de la force multilatérale. Je crois qu'en fin de compte, quand on aura tout pesé, il faut le faire, ou il faut l'essayer. Mais nous devons être conscients que nous allons, je crois, trouver en face de nous une France de plus en plus difficile. Et même, je crois que les relations entre la France et l'Allemagne vont se détériorer, parce que je ne vois pas bien comment le général de Gaulle peut permettre à l'Allemagne de participer à cette force multilatérale, alors qu'il a été tellement mécontent lorsque les Anglais ont fait beaucoup moins. De sorte que je crois vraiment que nous allons avoir un moment difficile où nous allons trouver, aussi bien dans les questions économiques que militaires, une France qui sera très difficile à faire travailler en commun, à collaborer avec elle.
Do you think the United States should now, even if it didn't before, give nuclear assistance to the French?
Monsieur le Président, j'aurais répondu oui à une condition qui n'est pas réalisée pour le moment. Le général de Gaulle fait deux choses qui doivent arrêter les nations, les États-Unis dans cette politique. Un, c'est qu'il dit toujours, qu'il dit souvent, que l'Alliance Atlantique est une alliance momentanée. Deux, c'est qu'il, de temps en temps, fait allusion à cette Europe qui irait de l'Atlantique à l'Oural. Personne n'a jamais très bien compris ce que c'était. Mais évidemment, les États-Unis ne peuvent donner une assistance à la France dans un objet aussi important que l'arme nucléaire que s'ils ont l'assurance d'être en face d'un allié inconditionnel. Et plusieurs fois, jadis, quand j'étais secrétaire général de l'OTAN, je suis venu plaider aux États-Unis cette idée qu'il fallait aider la France dans cette construction de sa force de frappe, parce que j'avais le sentiment que le général n'accepterait jamais une autre politique. Mais bien entendu, j'ajoutais toujours, il faut obtenir de lui l'assurance d'une alliance inconditionnée, et pas qu'il puisse, avec cette force qu'on l'aiderait à fournir, avoir une politique qui diviserait ou qui éloignerait l'Europe des États-Unis. C'est ça la difficulté.
And of course, we never have any assurance that the question really is whether if we make him, give him assistance to become stronger, whether that persuades him more in the direction of becoming an ally, or whether it persuades him more in the direction of becoming a...
C'est le problème pour les États-Unis.
They have to make a judgment of his character and also his policy, based not on what he says today, but what he said for 20 years and what he says for the next 20 years. I would think that he's not a very good risk. I mean, he doesn't... But on the multilateral force, you know, Mr. Minister, all the reasons we put it forward, which are really tied in with the Germans, with the French, the British, and the Americans having this capacity, and the Germans on the danger line. Even if Mr. Adenauer von Hassel may say what they want to say, Mr. Schroeder, Mr. Strauss, or someone else who's in opposition will say this is what we need. I don't know whether the multilateral force will serve as a channel to ease those pressures. Do you think we should proceed with it?
Yes.
Providing it's understood that this force cannot be fired unless without the concurrence of its major numbers, which would be the United States as well as Germany.
Je crois que la force multilatérale maintenant, si elle est acceptée par l'Allemagne, règle un problème. C'est qu'il est probable que ceci est en fait, l'Allemagne jamais ne demandera une force atomique nationale. Je crois que ce problème-là est donc réglé. Naturellement, la France refusant de participer au système, ce système est parfait, c'est normal, c'est perfect. Et la vraie question, c'est de savoir si vous réglez ce problème allemand. Il faut faire cette force multilatérale. C'est un problème assez, c'est ce que je dis, c'est un problème difficile.
Of course, it doesn't seem to me that it presents a danger, really any more dangerous situation than we now have if it's understood that the United States would be the major stockholder and that it couldn't be used without our agreement. That's not going to satisfy you. Mr. von Hassel had a story in this morning's paper, some interview, I haven't read the whole interview, in which he said that Germany could not accept indefinitely the United States veto. But in any case, there's no sense in having a multilateral force unless we have the veto, or unless there is some political unity of Europe which will permit us to give it to Europe and not to just the Germans. Now, if the multilateral force fails, then the Germans are going to come to us and ask for us to put missiles in Europe, Norstat proposal, including in Germany, even though the warheads would still continue to be under nominal American control. I regard that as a more inflammatory action against the Soviets than the same missiles on a ship. Just because we regard a missile in Cuba as more inflammatory than a missile in a Soviet submarine. But that the British have been rather reluctant to come along with the multilateral force because they feel that the pressure for a nuclear participation is less than we do in Germany, and that the Germans have no alternative. That the French will not share their capacity with them, and if we say no, the British say no, the Germans have no place else to go. Well, that may be true, but I think they may get into some arrangement with the French. Or two.
Je crois que c'est tout de même là. En effet, je crois que c'est ça l'alternative à laquelle il faut penser. C'est qu'aujourd'hui, le général de Gaulle dit « Je n'aiderai pas les Allemands à faire une force atomique propre. » Mais je crois qu'un jour, tout de même, dans l'évolution de cette politique gaulliste, il peut offrir aux Allemands une participation dans une construction atomique germano-franco-allemande. Ça, je crois que ce serait très très mauvais. De sorte que vraiment le problème reste là. Est-ce qu'on évite cela en fixant les Allemands dans cette force multilatérale qui doit bien entendu être faite au moins avec les Anglais, au moins que les États-Unis, les Allemands et les Anglais soient dedans. Là, il ne faut pas que ce soit une force germano-américaine, au moins germanique proche.
Well, you know, another reason why it seems to me the general's policy of attacking NATO is wrong is because imagine today if we didn't have the Italians tied to us by a treaty and you had this political situation in which we've got Italy, where you might have the Nenni group saying that they could join the government if Italy pursued an independent international course or a neutral independent course. In fact, they're locked in and the NATO tie makes the acceptance of the NATO obligation obligatory upon anyone who joins the Italian government. If there was a matter of choice, there would be all kinds of internal pressures. That's why every time General de Gaulle attacks NATO, it's not so much the military problem, but the political problem. But we think we're going to go ahead. We're trying to get the British. They don't want to join because Mr. McMillan is under attack politically, and he's finally sold the idea of the Polaris and the National Deterrent. Now he comes around and says they need some more money for a multilateral deterrent, which the Germans are going to be in, at a time when he's under attack by Mr. Wilson anyway, and he's going to run his political campaign, a major one, on the preservation of the national deterrent. And the nationalist campaign, therefore, is very reluctant. We've had some difficulties with him, with getting him to accept it. We're sending our Admiral Ricketts, who went to Germany, to the England, and and Mr. McMillan and I have been correspondents. Our feeling is, for the reasons you've given, that we've got to proceed ahead now, that the Germans did accept, Mr. Adenauer did write me in April, as you know, saying that they would accept serve the ships and that they would accept the concept of unanimity of firing among its major participants. Those are two of the key decisions. Now, if we get the British in, then we would have the British, the Germans, and the Italians. We hope the Italians. Hopefully, there'd be some other participation. The question would be whether this, it seems to me, would involve us in a joint enterprise with the Germans and occupy their attention and their energies for at least the 60s. I don't know, the 70s, there may have to be new arrangements. You may have a new political situation in Europe. But therefore, your judgment would be that we should proceed ahead with Molinaro 4.
Je crois que tout bien que vous êtes, il faut aller de l'avant. Mais il faut se rendre compte que ça risque de nous poser des problèmes difficiles, mais que tout bien pesé, et que si on envisage la possibilité que les relations avec la France peuvent tout de même devenir encore plus difficiles en faisant la force multilatérale, je crois que pour les raisons que vous dites, Monsieur le Président, il faut aller de l'avant.
But the Molinaro force will, as you say, I thought that was a very good point it will make, that you will involve the Germans very intimately with the United States, and therefore, in a sense, be a checkmate to De Gaulle's policy of Franco-German tie, and therefore will cause him to take additional steps against us.
N'est-ce pas ce que je dis, et tous mes collaborateurs ne sont pas d'accord, moi je dis ceci. Si l'Allemagne fait cela, bien que De Gaulle dise, elle peut le faire, ça m'est égal, elle peut s'amener dans la force multilatérale. Je suis convaincu que c'est une défaite majeure pour la politique allemande, pour la politique française, et que ça vide le traité franco-allemand de toute substance. De voir l'Allemagne se diriger vers la construction d'une force nucléaire anglo-saxonne, pendant que De Gaulle reste avec sa force individuelle, c'est une défaite majeure de la politique française. Même si De Gaulle dit « faites-le », je ne crois pas qu'il est tout à fait sincère quand il le dit. Et alors, il peut nous créer, évidemment, dans le domaine de la force atlantique, mais aussi dans le domaine des grandes négociations économiques qui commencent, un certain nombre de difficultés. Je crois qu'il faut réaliser cela. Ben, certainement, la création de cette force multilatérale ne rapprochera pas la France des autres pays, ni des pays de la communauté européenne, ni des pays de la communauté atlantique.
I wonder whether, under what conditions he'd create the most difficulty if he were the leader of a Franco-German, possibly other countries, or whether if he feels more isolated. I think he presents difficulties in any case. I know that the multilateral force will disturb, but I wonder if he wouldn't produce the same difficulties for us anyway.
Eh bien, je suis d'accord. Ayant bien posé les difficultés des deux côtés, il vaut encore mieux le laisser isolé que de renoncer à faire la force multilatérale. Et je crois que même s'il est isolé et qu'il crée des difficultés, il y aura moyen de les surmonter. C'est pourquoi tout compte fait, après avoir posé le pour et le contre, je crois qu'il faut aller de l'avant tout de même et marcher pour les années 60, enfin pour voir. Il n'est pas éternel non plus, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en France, etc.
Do you think that, Mr. Minister, that we're going to find ourselves with General de Gaulle for the next 4, 5, 6 years?
Ça, c'est une possibilité. Ça peut dire, ça peut se terminer plus vite, mais enfin, nous aurons d'autres problèmes, parce que la succession du général de Gaulle en France sera une chose très difficile et je crois très dangereuse. Très dangereuse au point de vue de la politique intérieure française. Il est probable, il est même très probable que les successeurs du général de Gaulle aient une politique étrangère différente et qu'ils cherchent à se rapprocher des Anglais et des États-Unis. Et je crois que ça amènera en France, de grosses difficultés. L'un des résultats déjà, c'est qu'il y a un rapprochement pour le moment en France entre les socialistes et les communistes. C'est évidemment pas une très bonne chose du point de vue général. Et ça, c'est le résultat de la politique qu'il suit. Je crois que la succession sera difficile à régler. Elle peut donner lieu en France à des troubles, à des difficultés assez graves. Mais je ne suis pas sûr que les successeurs n'auraient pas une politique étrangère plus facile pour les États-Unis et l'Angleterre. Parce que je crois que dans le cas du général de Gaulle, il y a tout de même beaucoup d'éléments personnels que d'autres Français ne partagent pas. Par exemple, certainement, M. Debré, par exemple, est un homme qui n'a pas vis-à-vis des anglo-saxons les préjugés que le général a, les préjugés personnels. Une France avec M. Debré pourrait avoir une politique extérieure différente. de Gaulle.
You think that we're going to see a situation where there would be a European or really the six, a military policy, a deterrent nuclear policy?
Je trouve ça stupide. Ou bien on croit à l'invisibilité des liens entre les États-Unis et l'Europe. Si on y croit, pourquoi faire une force européenne indépendante? On peut certainement demander aux États-Unis, et les États-Unis offrent de partager certaines responsabilités. Ah oui, bon. Et pourquoi s'amuser à construire une autre force nucléaire alors qu'il y a celle des États-Unis? Ça ne se défend que si on croit qu'un jour l'Europe pourrait être en guerre d'une manière indépendante. Mais moi, je ne vois pas ça du tout comme une possibilité. Si jamais les communistes décident de faire la guerre, ils la font encore plus aux États-Unis qu'à l'Europe. Et s'ils commençaient par faire la guerre à l'Europe, je ne vois pas très bien comment les États-Unis assisteraient à cela, ce indifférent. Et s'ils commençaient, les Russes, à faire la guerre à l'Europe, je ne les vois pas non plus laisser aux Américains le choix du moment et de la force de leur intervention. De sorte qu'à toutes ces hypothèses, moi je ne crois pas, je crois quelque chose, que si un jour les Russes décident à faire la guerre, ce sera une guerre totale au monde libre tout entier qui englobera à la fois l'Europe et les États-Unis. Et je ne sais pas ce que la défense de la France viendra faire là-dedans, elle sera englobée dans une défense totale. Ça me paraît être la seule hypothèse à laquelle on peut s'accrocher politiquement.
How much do you think that the syllogism of General de Gaulle has affected the rest of Europe, that they must have each national nuclear, or number two, that the United States alliance is an uncertain one?
Monsieur le Président, il serait faux de dire que les idées du général de Gaulle n'ont aucun succès. Dans tous les pays, il y a des gens qui suivent le général de Gaulle et qui croient que l'Europe, qui est redevenue riche, doit manifester sa résurrection en ayant ses propres moyens de défense. Il y a des gens, mais je crois que c'est une toute petite minorité. Et je crois qu'il y a en Europe, dans l'ensemble, une très grande majorité qui continue à faire confiance aux États-Unis complètement. Et il est dangereux, naturellement, qu'aux États-Unis, l'idée que cette confiance n'existe plus risque de grandir parce que on attache naturellement beaucoup de poids à des propos qui sont des propos imprudents. Quand le général de Gaulle répète sans cesse l'Amérique nous abandonnera un jour, il est fort à craindre qu'un jour les Américains disent vous nous l'avez garanti que nous allons le faire, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas la pensée ni des gouvernements européens ni des peuples européens. C'est pourquoi il faut se dire bien ensemble et ne pas se laisser impressionner par cette politique qui est mauvaise.
But you know, there were a round of mischievous speeches of General de Gaulle in Greece, which were constantly talking about the uncertainty of the Atlantic Alliance, of the bonds, the intimate bonds of Europe. All these sort of suggestions, which in the case of Greece, who were somewhat irritated with us because we have to cut down somewhat on the economic assistance we give. But that line goes from country to country and is expressed in beautiful language and with great presence. So that I'm going to Germany and Italy in late June. What do you think is the point to be made on that sort of a trip? What is it that this is required from us, at least in the way of verbal action?
Oui, moi je pense, Monsieur le Président, mais n'est-ce pas, que vous l'avez dit et M. Rusk et toute la diplomatie américaine l'a dit et le répète sans cesse, n'est-ce pas, nous sommes avec l'Europe, la défense est indivisible. Je crois que c'est évidemment un thème qu'il est bon de répéter, n'est-ce pas, et d'indiquer qu'il n'y a vraiment rien qui permet de douter cela, de la présence des peuples américains, et là, que les hypothèses politiques vous forcent d'ailleurs qui a Ottawa, il avait raison, ce n'est pas par sentimentalité ou par solidarité, mais c'est parce que c'est ça le fait, l'actualité politique, c'est que nous sommes liés, n'est-ce pas? Il est difficile, mais à mon avis, impossible de concevoir une guerre dans laquelle l'Europe et l'Amérique seraient séparées. Les gens en Europe continuent à penser un peu à la guerre comme on en pensait en 1914 ou en 1939. Une guerre aujourd'hui avec la Russie, c'est pas pour conquérir l'Alsace-Lorraine ou pour rectifier les frontières. C'est une guerre qui aurait pour objet la domination mondiale. Mais les Russes vont pas faire la guerre à la France pour la domination mondiale. C'est pas, ils vont faire la guerre à l'ensemble du monde libre. Alors je crois que c'est les Américains. C'est notre conception que nous ne pouvons être entraînés en Europe dans une guerre avec le communisme que pour cela. Et par conséquent, en dehors de toute question sentimentale, c'est le fait politique actuel et c'est notre volonté à laquelle ils sont. Je crois que c'est un bon thème. Je crois que c'est un bon thème.
You know what I think is regrettable is that Mr. Pearson now in Canada, Mr. McMillan in London, and you in Belgium, and Mr. Lund in the Netherlands, and Earhart coming into, and Mr. Fanfani or Moro in Italy, that there is more commitment towards close cooperation in the Atlantic community and more necessity for it than there have been for a good many years. And one individual has blocked and really affected the flow of history, at least the immediate future. Most unfortunate, because in every other country, I think there's a common desire to associate closely together.
L'importance des individualités dans l'histoire, elle est marquée par ce qui se passe, car ce que vous dites est tout à fait vrai, c'est que pas un homme qui, pour le moment, empêche le développement normal de la communauté européenne et crée des difficultés, des ennuis dans la communauté atlantique. Et je dis un homme et pas une nation, parce que je suis convaincu que cette politique n'est pas une politique française, c'est la conviction d'un homme particulier qui a ses idées à lui, je dirais ses préjugés, ses rancœurs, toutes sortes de choses. Souvent, je dis, quand on parle de la France, c'est plus un cas médical qu'une politique qu'il faut examiner. C'est le cas d'un homme. Il faut beaucoup plus de psychologie que d'esprit politique. Il faut comprendre, on est devant un homme tout à fait particulier. Et qui fait, à mon avis, de mal, parce que l'un des défauts de sa politique, c'est qu'il a réveillé le nationalisme partout, il a réveillé le nationalisme en France, il risque de réveiller le nationalisme en Allemagne. Sans que Macmillan aujourd'hui veut faire une campagne électorale sur le thème la force atomique de la Grande-Bretagne, c'est un thème nationaliste qu'il est en train d'exploiter. Et tout ça aurait été impossible il y a deux ou trois ans. C'était le grand progrès que nous avions fait en Europe, nous pensions tout au moins. C'est qu'en faisant la communauté européenne, nous avions détruit le nationalisme. Il a tout réveillé. Il a tout réveillé. À mon avis, il fait beaucoup de mal. Il fait beaucoup de mal. Et le résultat de sa politique est désastreux parce qu'il est en train de donner à l'Allemagne la première place en Europe. L'Allemagne devient le leader de l'Europe. À l'intérieur des six, maintenant, comme ils font d'une politique n'est pas du tout conforme aux intérêts français. Il mène les quatre autres dérivés, l'Allemagne mène les quatre autres. Et à l'intérieur de l'Alliance Atlantique, si sur le plan atomique, il y a cet accord entre les Allemands et les Américains, les Allemands sont devenus le grand allié de l'Amérique. Parce que c'est ça le résultat de la politique de l'Ouest. Moi, je trouve ça absolument désastreux. Désastreux. Je crains beaucoup que le traité franco-allemand, qui n'a déjà pas beaucoup de substance, si ça continue comme ça, dans quelques mois, les relations entre la France et l'Allemagne seront mauvaises. Parce que cette idée de se réunir tous les trois mois, pour constater qu'on est en désaccord sur tout, en désaccord sur l'entrée de l'Angleterre, en désaccord sur la politique même de la communauté, en désaccord sur la conception de la défense, je ne crois pas de se réunir tous les trois mois pour constater son désaccord dans un traité bilatéral. C'est une bonne chose.
I think that Chancellor Adenauer supported de Gaulle here on the
en Allemagne, tous ces derniers mois, n'est-ce pas, il y a eu deux politiques. Il y a les derniers feux de la politique du chancelier, et déjà, la politique de ses successeurs. Et la politique de ses successeurs sera certainement beaucoup moins française que la politique du chancelier. Sans l'ombre d'un doute. Parce que M. Erhard, par exemple, j'ai eu plusieurs conversations avec lui après le 14 janvier. Il a bien mesuré le danger. Il a bien vu le danger que représentait cette recrudescence d'un nationalisme français, avec comme conséquence inévitable une recrudescence du nationalisme allemand. Ce n'est vraiment pas une chose à souhaiter. Nous avions réussi en mettant l'Allemagne dans la communauté atlantique et dans la communauté européenne. Nous avions enveloppé l'Allemagne. Et nous lui avions enlevé, certainement, du temps d'Adenauer, il y a quelques années, son caractère nationaliste. Mais si la France se refait pas sur la base du nationalisme, c'est un terrible exemple pour l'Allemagne, très mauvais. Et un homme comme Erhard est parfaitement conscient de ces choses. Et je trouve que ses réactions, après le 14 janvier, ont été généralement bonnes. Mais le fait pour les Allemands de se rapprocher des Américains en matière de défense, va naturellement les éloigner de la France. Ça paraît évident. Et c'est s'éloigner sur un point qui, pour le général de Gaulle, est le point essentiel, cette idée qu'il faut une force atomique française, n'est-ce pas? Et tous ceux qui ne partagent pas ce sentiment-là sont contre lui. C'est pour ça que les relations avec les États-Unis ont été moins bonnes. C'est pour cela qu'ils ont empêché la Grande-Bretagne d'entrer dans le marché commun. Et maintenant, si l'Allemagne le suit, je suis convaincu que les relations seront moins bonnes. Et il ne créera des difficultés. Seulement, je crois que si tous les autres pays tiennent ensemble, ces difficultés seront surmontées. Et la France isolée se crée des ennuis. Elle ne peut pas triompher contre tous les autres pays européens ensemble et atlantiques.
If the choice and the ultimate policy was to have accepted General de Gaulle's proposals, which were one, atomic assistance, and two, a triumvirate of France, Britain, and America, which was his ultimate policy, and the Franco-German was the second side, which policy was the most, do you think, would have been the most harmful?
C'est une politique que je peux pas accepter, c'est une politique qui aurait détruit l'Alliance, qui aurait reconduit d'abord tous les petits pays de l'Europe à la neutralité. La Hollande, la Danemark, la Norvège, la Belgique, tous les pays se retournaient à la neutralité. Très mauvaise politique aussi. Et tellement inutile, Monsieur le Président, parce que, naturellement, c'est un point de vue intellectuel de dire tous les pays sont égaux. Mais quand on est dans la réalité, les grands pays gardent, s'ils le font, je dirais, humainement et gentiment, toutes leurs possibilités. Qu'il est inadmissible, c'est la façon de se faire traiter, comme on s'est fait traiter dans la communauté européenne, ça c'est inadmissible, et alors il y a une révolte. Mais quand les grands pays font valoir leur influence d'une manière humaine, il n'y a pas de difficulté. Je ne connais pas de cas dans l'histoire de l'Alliance Atlantique où les États-Unis aient imposé leur vue. Quand on me dit qu'il faut que nous ayons plus de liberté vis-à-vis des États-Unis, je dis toujours, moi j'ai vécu la vie de l'OTAN, sous ses formes depuis 15 ans, donnez-moi donc un cas où les États-Unis auraient imposé leur vue politique ou militaire. Jamais fait. C'est un problème qui n'existe pas quand on est